Il aura fallu la tragédie du mois de janvier pour que la classe politique convienne que la culture et l'éducation sont l'espoir de la France. Qu'en reste-t-il ? La culture sera-t-elle demain cette éducation citoyenne de l'adulte qui changerait réellement le lien social ?
Ça peut pas faire de mal.
Artistes, spectateurs, citoyens, notre tâche est grande. Car il ne s'agit plus seulement de préserver une part de culture dans la rapacité des temps marchands, mais de faire entrer la culture dans un projet de société qui n'existera pas sans elle.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Le mot de politique lui-même, il nous appartient de lui redonner des lettres de noblesse et un avenir. Il faut agrandir le destin de chacun avec le destin de l'autre, offrir une alternative au communautarisme, promouvoir l'amour de l'esprit, faire que les enfants de notre pays ne rêvent pas uniquement d'être milliardaires, mais d'être au monde dans l'ouverture et la joie. Quelle belle idée de penser que l'immense mouvement qui a réuni la France a finalement convergé vers cette formule parfaite « Je suis l'autre ». C'est dans le phénomène humain le plus grand mystère et la plus grande nécessité. On imagine l'artiste narcissique, mais sa liberté inaliénable n'existerait pas si elle n'était tournée vers une altérité habillée d'or, vers une ivresse d'échapper à soi-même, de connaître tous les destins et en particulier de ceux qui n'ont pas la parole. Avignon ouvre son champ utopique à la manière d'une question incessante. Avons-nous renoncé à un monde meilleur ? La force d'Avignon, c'est de poser cette question non pas seulement en termes intellectuels, mais dans ce moment d'expérience partagée que sont les 3 semaines du festival. Qu'est-ce qu'un festival réussi ? Peut-être celui qui prend acte d'un changement du monde et arrive par la force des artistes et des applaudissements à accueillir ce changement avec un plaisir paradoxal. Bien sûr, la lucidité sera au rendez-vous, elle n'a jamais été absente des plateaux. Mais cette lucidité n'est pas synonyme de désespoir. Elle n'a pas la violence des statistiques, le dogmatisme des évaluations. Elle est chargée de ferment et de vie. Elle est faite d'indignation, non de résignation. Avignon, c'est 3 semaines de grand et beau bruit. Non pas de celui qui empêcherait d'entendre le chant du monde, mais de ce bourdonnement des foules désirantes, de ce tohu-bohu des fêtes, de ce tintamarre des espérances. Au-dessus de nous, les étoiles du ciel d'Avignon jalousent nos questions et notre impatience, car on n'apprend pas à être humain en étant séparé de l'humanité.
C'est par cette déclaration d'amour pour l'art et la culture que s'ouvrira la prochaine édition du Festival d'Avignon du 4 au 25 juillet. Une édition placée sous le signe du politique au sens fort, celui d'une rencontre avec l'autre. Qu'il soit l'étranger, la femme, le voyageur, le proscrit ou l'oublié, précise Olivier Py. Autant de figures qui traversent la création actuelle et qui font la richesse de cette seconde programmation tant attendue du directeur du Festival d'Avignon. Cette ouverture fondamentale à l'altérité passe par une réflexion sur le langage, l'un des thèmes de cette 69e édition qui met à l'honneur la langue de Shakespeare, avec 3 pièces au programme, Le Roi Lear mis en scène par Olivier Py dans sa propre traduction, mais aussi Richard III par le grand metteur en scène allemand Thomas Ostermeyer et Antoine et Cléopâtre par le metteur en scène portugais Tiago Rodriguez. Si Shakespeare tient le haut de l'affiche, les auteurs contemporains seront également au rendez-vous, ainsi que les dramaturges Valère Novarina et Olivier Saccomano. Ce soir, pour notre dernière émission de la saison, découvrons donc en avant-première quelques-unes de ces voix qui vont faire vibrer la Cité des Papes. Je serai accompagné par un jeune comédien au talent exceptionnel, Cédric Michel. Bonsoir Cédric.
Bonsoir.
Commençons par une belle leçon sur les limites du langage et découvrons ce que nous dit le silence de Cordélia dans Le Roi Lear. Cette pièce ouvrira le festival dans la cour d'honneur au Palais des Papes du 4 au 13 juillet. À travers cette tragédie qu'il rêve de mettre en scène depuis longtemps, Olivier Py propose une lecture personnelle du silence de Cordélia. Plus qu'un refus de parler, il y voit le refus de quantifier l'inquantifiable, véritable prophétie qui annonce l'indicible du XXe siècle. Voici la célèbre scène d'ouverture dans la traduction encore inachevée qu'Olivier Py nous a confiée au moment où il débutait les répétitions. Le texte sera disponible aux éditions Actes Sud à partir de mercredi prochain. Cédric vous prêterait votre magnifique voix au roi Lear et j'aurai le plaisir de vous donner la réplique dans le rôle des trois filles.
Il faut vous dévoiler mes plus secrets désirs. Donnez-moi la carte, le pays est partagé en trois. L'angoisse et le travail ne sont plus de mon âge, pouvoir et force à la jeunesse. Et quant à moi, libéré de tout, je vais ramper vers la mort. Je vais faire connaître la dot de mes filles publiquement pour éviter tout conflit. Je dois aussi une réponse à Bourgogne et France qui rivalisent pour ma cadette depuis longtemps. Dites-moi, mes filles, puisque je renonce à mon royaume et au tourment de la couronne, laquelle de vous m'aime le plus ? Je veux donner la meilleure part à celle qui fera du langage l'égal de la nature. Gonéril, tu es l'aînée. Commence.
Mon amour est plus grand que le pouvoir des mots, plus grand que la lumière, l'espace, la liberté. Plus précieux et plus rare que toute chose au monde, la vie, la grâce, la santé, la beauté et l'honneur. L'amour pour son enfant et l'amour pour son père, la parole et le souffle ne peuvent pas l'atteindre. Mon amour est au-delà de tous les au-delà.
Cordélia. Ce que l'on ne peut dire, il convient de le taire. Aimer dans le silence et aimer le silence. Lear montrant une carte.
Par-delà cette ligne, ces forêts sombres, ces campagnes fertiles, ces torrents puissants, ces prairies infinies, sont à toi, à ton mari et à tes enfants. Mais comment parlera mon autre fille, Regan ?
Je suis faite du même métal que ma sœur. Il y a dans mon cœur tout l'amour qu'elle a dit. Mais moi, je vais plus loin et je veux proclamer que je suis l'ennemi de toute autre jouissance, que je ne connais rien de plus grand dans mon âme. La joie de vous aimer suffit à mon bonheur.
Cordélia pour elle-même. Pauvre Cordélia, ma langue est misérable et mon amour est riche.
À toi et tes héritiers, un tiers de notre beau pays aussi grand, riche et heureux que celui de Gonéril. Maintenant, notre joie, ma chérie, ma dernière, les vignes de la France et le lait de Bourgogne rivalisent pour toi, alors c'est à toi, parle, pour un tiers plus précieux encore que tes sœurs.
Rien.
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 Rien ne naît de rien. Dis autre chose, quelque chose.
Voilà tout son malheur, son cœur n'a pas de langue. Elle vous aime comme une fille, ni plus ni moins.
Comment ? Comment ? Cordélia, répare ta parole. L'avenir est en péril.
Restons en compagnie de Shakespeare et écoutons une autre prophétie macabre. C'est sur une prédiction erronée que s'ouvre la tragédie de Richard III, dernière pièce historique de Shakespeare qui raconte l'ascension et la chute d'un tyran bossu, ultime rejeton de la lignée d'Henri VI. Cette pièce sera présentée du 6 au 18 juillet à l'Opéra d'Avignon par le grand metteur en scène allemand Thomas Ostermeier. Nous sommes à l'acte 1, scène 3. La reine Marguerite tente d'alerter la cour contre les crimes à venir, mais personne ne l'écoute. Ni la reine Élisabeth, ni Richard III qui retourne habilement ses malédictions contre la vieille femme. Quoi, vous étiez tous à vous montrer les dents avant mon arrivée ? Prêt à vous empoigner l'un l'autre à la gorge, et maintenant vous tournez tous votre haine contre moi. Les malédictions peuvent-elles percer les nuages et pénétrer le ciel ? Alors, nuages inertes, livrez le passage à mes malédictions fulgurantes. Qu'à défaut de la guerre, votre roi périsse dans la débauche, comme le nôtre a péri par le meurtre pour qu'il soit roi. Que ton fils Édouard, aujourd'hui prince de Galles, pour mon fils Édouard, qui était prince de Galles, meure dans sa jeunesse par la même violence prématurée. Toi-même qui es reine, pour moi qui fus reine, survis à ta gloire, misérable comme moi. Puisses-tu vivre longtemps pour pleurer la mort de tes enfants et voir une autre, comme je te vois aujourd'hui, revêtue de tes droits comme tu te pars des miens. Que tes jours heureux meurent longtemps avant ta mort, et après de longues heures de détresse, meurent, n'étant plus ni mère, ni épouse, ni reine d'Angleterre.
Rivers et Dorset, vous étiez présents. Et toi aussi, Lord Hastings, quand mon fils fut poignardé par leur dague sanglante. Je prie Dieu qu'aucun de vous ne vive son âge naturel, mais que tout soit fauché par quelque brusque accident.
Cesse tes conjurations, haineuse sorcière flétrie.
Tu crois que je vais t'épargner? Reste chien, car tu vas m'entendre. Si le ciel tient en réserve un fléau terrible qui surpasse ce que je peux te souhaiter, oh, qu'il le garde jusqu'à ce que tes péchés soient mûrs, et qu'alors il précipite son indignation sur toi qui trouble la paix de ce pauvre monde, que le ver de la conscience ronge toujours ton âme. Tant que tu vivras, soupçonne tes amis d'être des traîtres et prends les pire traître pour tes plus chers amis. Que jamais le sommeil ne ferme cet œil assassin, à moins qu'un rêve torturant ne t'épouvante d'un enfer d'affreux démons. Créature des goules, avorton, porc fouisseur, toi qui fus marqué à ta naissance comme esclave de la nature et fils de l'enfer, toi, flétrissure des entrailles de ta mère affligée, toi, rejeton exécré des reins de ton père, toi, guenille de l'horreur, toi, détesté.
Marguerite.
Richard.
Hey.
Je ne t'appelle pas.
Je te demande pardon, car j'ai bien cru que tu m'avais appelé de tous ces noms fielleux.
Oui, mais je n'attendais pas de réponse. Oh, laisse-moi conclure ma malédiction.
C'est ce que j'ai fait, elle se termine par Marguerite.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
There's a road in my mind. I've been watching for a long time. It's the muddy Mississippi and the yellow dandelion. From the Hudson to Missouri, in the mosses and red clay, I can feel the rhythm call me from a thousand miles away. Let me go.
Thank you.
Cordélia, Marguerite, Cléopâtre, autant de femmes réduites au silence. Écoutons à présent un autre silence qui en dit long, celui d'un vieil homme, misanthrope, qui règle ses comptes avec ses contemporains. Il s'agit d'une pièce polémique du dramaturge autrichien Thomas Bernhard, « Des arbres à abattre », censurée à sa sortie en 1984. Elle est publiée chez Gallimard en 1987 dans une traduction de Bernhard Kreis. L'œuvre sera créée à la Fabrica du 4 au 8 juillet par l'un des plus grands metteurs en scène actuels, le Polonais Christian Lupa. Dans un dîner mondain, un homme en retrait observe les invités et dénonce l'hypocrisie du milieu artistique. Voici un extrait de ce long monologue intérieur au ton rageur. 20 ans que tu es les époux Hausberger, pensais-je dans le fauteuil à oreilles. Et voilà que tu tombes sur eux au parc du Graben et que tu acceptes leur invitation et que tu vas effectivement chez eux à l'heure prévue. Et tu connais tous ceux qui sont invités à ce dîner et tu y vas quand même. Et je pensais qu'il eût mieux valu ce soir-là, et éventuellement pendant toute la nuit, lire Pascal ou Gogol ou Dostoïevski ou Tchekhov plutôt que de me rendre à ce répugnant dîner artistique. Les époux Hausberger ont détruit ton existence, ta vie. Ils ont provoqué la catastrophe de ton existence, qui a même fini par te mener à l'hôpital psychiatrique à l'époque. Et tu y vas. Et qui plus est, tu leur dis encore combien tu te réjouis à la perspective de cette soirée, de ce dîner artistique, de ce qui ne sera à coup sûr qu'un étalage de mauvais goût, comme l'ont été chez eux toutes les soirées, tous les dîners dont tu te souviens. Il n'y a qu'un imbécile sans caractère pour accepter une telle invitation, pensais-je dans le fauteuil à oreilles. Pendant 20 ans, tu ne les as pas revus. Et un beau jour, tu vas au Graben sans te douter de rien et tu tombes sur eux et tu te laisses inviter par eux, pensais-je dans le fauteuil à oreilles. La Hausberger parlait inlassablement du comédien grandiose qui avait atteint dans ce canard sauvage le sommet de sa carrière et elle consolait simultanément les invités qui avaient déjà rappliqué 2 heures avant minuit. Elle portait la robe jaune que je connaissais déjà, peut-être qu'elle avait mis la robe jaune pour moi, pensais-je, car je lui ai toujours fait des compliments il y a 30 ans au sujet de cette robe qui m'avait énormément plu sur elle, alors qu'elle ne me plaisait pas du tout maintenant, bien au contraire, elle m'a effectivement paru de mauvais goût. La Hausberger répétait sans cesse les mots « émouvant canard sauvage » et le plus grand de tous les comédiens vivants, de cette même voix qui m'avait déjà porté sur les nerfs il y a 30 ans. Je n'avais jamais pu souffrir sa voix, mais à présent que sa voix était devenue vieille et rauque, avec en plus une note continue d'hystérie sous-jacente, je la trouvais insupportable. Le fait est que j'ai vu un jour le comédien attendu, c'était il y a de longues années, au Burgtheater, dans l'une de ces ignobles farces sociales anglaises dans lesquelles la bêtise n'est tolérable que parce qu'elle est anglaise et pas allemande ou autrichienne, et qui sont jouées depuis un quart de siècle au Burgtheater. Théâtre, sur la scène de la bêtise théâtrale autrichienne, une institution théâtrale vouée à l'annihilation des poètes et au braillement du crétinisme absolu. J'ai toujours secrètement haï les comédiens et j'ai toujours voué une haine toute particulière aux comédiens du Bourg. Et le comédien du Bourg que les époux Hausberger ont invité ce soir est sans nul doute l'un des plus abjects qui m'ait été donné de rencontrer. Il incarne à mes yeux l'anti-art en personne, pensais-je dans mon fauteuil à oreilles. Il est le prototype même du cabot sans inspiration et donc sans le moindre esprit, l'un de ces horribles faiseurs de pathos, de la clique de ceux qui éreintent chaque soir les poètes dramatiques qu'ils sont censés représenter. Avec leur mimique forcée, ce n'est pas seulement Kleist que l'on saccage depuis des décennies. Le grand Shakespeare lui-même tombe victime des massacreurs du Burgtheater, qui n'ont aucune idée de l'art du théâtre et qui ont depuis longtemps fait du Burgtheater le séjour de leur dilettantisme dramatique. Ce n'est pas par hasard que dans les années 50, j'avais déjà choisi ce fauteuil à oreilles chez les Hausberger. Je vois tout, j'entends tout, rien ne m'échappe, pensais-je. Que ces personnes sont donc ridicules et ordinaires, pensais-je, assis dans le fauteuil à oreilles. Et aussitôt après, que je suis donc moi-même une personne ordinaire et ridicule, moi qui ai accepté leur invitation et me suis assis dans un parfait sans gêne, comme si de rien n'était dans le fauteuil à oreilles des Hausberger. Après la critique du théâtre, découvrons une autre forme de procès contre l'art. Voici un extrait de la trilogie du Revoir, pièce d'un autre écrivain de langue allemande, Botho Strauss, écrite en 1976. Elle est publiée en 1982 chez Gallimard dans une traduction de Claude Porcel. On attend avec impatience la version qu'en donnera un jeune metteur en scène français, Benjamin Poré, et son collectif d'acteurs. À découvrir au gymnase du lycée Aubanel du 21 au 25 juillet. À l'occasion d'un vernissage, des amis se croisent et se confient l'un à l'autre. Parmi eux, le directeur de la galerie, Moritz, fait souvent l'objet de vives critiques. On lui reproche d'exposer ses goûts personnels. Pour toute réponse, Moritz décide de voler les œuvres avec la complicité du gardien. Je ferai Moritz et vous, Cédric Michel, le gardien. Au travail, Vogel. Aidez-moi, il faut descendre les tableaux.
Descendre les tableaux ?
Décrocher tous les tableaux, avec précaution. Enlever. L'art à la cave.
L'art à la cave.
Personne n'a besoin de tableaux. Fadaise.
Fadaise, fadaise.
Ce n'est pas une belle exposition, Vogel, c'est un méli-mélo.
Méli-mélo, méli-mélo, méli-mélo.
Bric-à-brac, escroquerie, bluff.
Bluff, bric-à-brac.
Mystification du public critique. Fini le bluff, Vogel, fini, terminé, on ferme.
Les tableaux ne nous disent rien. Je les ai eus assez longtemps sous les yeux. Pas de chaleur, pas de joie, pas de symbole, pas de force, pas de chaleur, pas de contenu, pas de joie, pas de vie, pas de partenaire, pas de fierté, pas de réponse, pas de miracle. Pas de sens, pas de chagrin, pas de gratitude, pas de joie, pas de mystère, pas de joie, pas de joie, pas de joie.
Regardez un peu, quel chef-d'œuvre. Fauteuil, Domenico Gnoli, huile et sable. Oh, je l'aime. Là, vous voyez, juste là où les couleurs pâlissent doucement, joli. Mais l'ombre reste, l'ombre du dossier est assise, invitée sur le siège. L'ombre n'est plus l'esclave de la lumière, elle lui est totalement égale en droit. Foutaise. Cacher tout cela, emballer, rendre invisible. Avec précaution. Embarquer en voiture, cher objet. Allez, Vogel, allez. Il y a encore du terrain à déblayer.
Non, je ne marche plus. Presque 5 heures. Ma journée se termine. Je tiens à vous dire que je ne trouve pas ça très bien, ce que vous faites là. Vous aimez ces peintures, je le sais. Et ça se voit. Vous tenez à elles comme d'autres hommes tiennent à des êtres humains. J'ai honte maintenant de vous avoir aidé à enlever les tableaux. Il faut que je m'en aille. Alors, n'est-ce pas ? Bonsoir.
Moritz seul. Vieux bavard. Mon exposition. Il y manque une cohérence, dit-on. Possible. Où y a-t-il donc de la cohérence, grand Dieu ? Ces artistes sont finalement sans exception des combattants incurablement solitaires. Un moi héroïque l'un à côté de l'autre. Je me suis dit, je vais montrer aux gens avec brutalité qu'aucun n'a rien à voir avec l'autre. Et je susciterai ainsi dans la conscience une... Oui, c'est vrai, il y a quand même quelques œuvres dans tout ça qui me sont devenues particulièrement chères au cours des années. Ce sont des œuvres austères vouées à attendre humblement la postérité. Et j'aimerais qu'elles passent d'abord auprès de moi un tout petit moment de leur grande durée. Voilà ma réponse personnelle au cirque permanent des enfantillages, aux manies, aux effets, aux passions de Nabo, aux tristes idées fixes. Assistons désormais à un autre procès fictif contre une injustice littéraire. Parmi les figures de l'autre évoquées par Olivier Py, voici l'étranger, le personnage du célèbre roman de Camus, devenu le personnage principal d'un autre livre. Il s'agit de Meursault contre enquête, premier roman signé par le journaliste algérien Kamel Daoud. Dans ce récit, le narrateur n'est autre que le frère de l'Arabe, tué par Meursault, qui tente de redonner une identité à ce frère de fiction, mort prématurément sous la plume de Camus. Ce texte fera l'objet d'une adaptation par Philippe Berling et se jouera au Théâtre Benoît XII pendant la dernière semaine du festival. Voici le début de ce texte vengeur, à la fois hommage et réponse à l'étranger de Camus.
Aujourd'hui, Ma est encore vivante. Elle ne dit plus rien, mais elle pourrait raconter bien des choses. Contrairement à moi, qui, à force de ressasser cette histoire, ne m'en souviens presque plus. Je veux dire que c'est une histoire qui remonte à plus d'un demi-siècle. Les gens en parlent encore, mais n'évoquent qu'un seul mort. Sans honte, vois-tu, alors qu'il y en avait 2 de morts. Oui, 2. Je te le dis d'emblée, le second mort, celui qui a été assassiné, est mon frère. Il n'en reste rien. Il ne reste que moi pour parler à sa place, assis dans ce bar, à Oran, à attendre des condoléances que jamais personne ne me présentera. C'est pour cette raison que j'ai appris à parler cette langue et à l'écrire, pour parler à la place d'un mort. Le meurtrier est devenu célèbre et son histoire est trop bien écrite pour que j'aie dans l'idée de l'imiter. C'était sa langue à lui. C'est pourquoi je vais faire ce qu'on a fait dans ce pays après son indépendance, prendre une à une les pierres des anciennes maisons des colons et en faire une maison à moi, une langue à moi. Je te demande de m'écouter avec attention, tu finiras par comprendre. Ce n'est pas une histoire normale. C'est une histoire prise par la fin et qui remonte vers son début. Oui, comme un banc de saumon dessiné au crayon. Comme tous les autres, tu as dû lire cette histoire telle que l'a racontée l'homme qui l'a écrite. Il écrit si bien que ses mots paraissent des pierres taillées par l'exactitude même. As-tu vu sa façon d'écrire ? Il semble utiliser l'art du poème pour parler d'un coup de feu. Son monde est propre, ciselé par la clarté matinale, précis, net, tracé à coups d'arômes et d'horizons. La seule ombre est celle des Arabes, objets flous et incongrus, venus d'autrefois, comme des fantômes, avec pour toute langue un son de flûte. Moi aussi j'ai lu sa version des faits, comme toi et des millions d'autres. Dès le début, on comprenait tout. Lui, il avait un nom d'homme, mon frère celui d'un accident. Il aurait pu l'appeler 14 heures, comme l'autre a appelé son nègre vendredi. 14 heures, c'est bien. Zouj en arabe, le deux, le duo, lui et moi, des jumeaux insoupçonnables en quelque sorte. Un arabe, bref, techniquement fugace, qui a vécu 2 heures et qui est mort 70 ans sans interruption. Mon frère, Zouj, même mort assassiné, on ne cesse de le désigner avec le prénom d'un courant d'air pour qu'il rejoue son propre décès par balle, tiré par un Français ne sachant pas quoi faire de sa journée et du reste du monde qu'il portait sur son dos. Bon Dieu, comment peut-on tuer quelqu'un et lui ravir jusque sa mort ? C'est mon frère qui a reçu la balle, pas lui. C'est Moussa, pas Meursault, non ? Il y a quelque chose qui me sidère. Personne, même après l'indépendance, n'a cherché à connaître le nom de la victime. Personne. Tous sont restés la bouche ouverte sur cette langue parfaite qui donne à l'air des angles de diamant et tous ont déclaré leur empathie pour la solitude du meurtrier. Qui peut aujourd'hui me donner le vrai nom de Moussa ? Qui sait quel fleuve l'a porté jusqu'à la mer qu'il devait traverser à pied, seul, sans peuple, sans bâton miraculeux ? Qui sait si Moussa avait un revolver, une philosophie ou une insolation ? Qui est Moussa ? C'est mon frère. C'est là que je veux en venir. Te raconter ce que Moussa n'a jamais pu raconter. En poussant la porte de ce bar, tu as ouvert une tombe, mon jeune ami.
D'un point de vue littéraire, Kamel Daoud, vous vous sentez plus proche de Camus que d'une certaine littérature postcoloniale algérienne ?
Non, je revendique Camus comme étant un écrivain qui fait partie de ma généalogie. Il m'appartient, même s'il me tourne le dos ou pas, mais il m'appartient. Camus, j'ai lu à l'époque où j'avais de grandes crises dites mystiques. C'est pas l'étranger qui m'avait fasciné, c'était le mythe de Sisyphe ou c'était l'homme révolté. Camus fait partie de l'histoire de ma délivrance. Donc je le traite pas à part dans cette généalogie-là, mais je le traite aussi comme étant mien.
Restons dans le registre littéraire et découvrons un autre écrivain très attendu à Avignon. C'est la seconde collaboration entre deux grands artistes, le chorégraphe Angelin Préjocage et le romancier Laurent Mauvignier, qui signe le texte de la prochaine création du célèbre ballet. Tragédie épique contemporaine, Retour à Beratam, sera présenté dans la cour d'honneur du Palais des Papes du 17 au 25 juillet, avec 14 interprètes, danseurs et comédiens sur le plateau. Dans un pays ravagé par la guerre, un jeune homme revient chez lui à la recherche de la femme qu'il aime. Il ne reconnaît plus rien. Les survivants le fuient. Dans cette pièce chorale, la danse devient le langage des corps meurtris, traversés par la violence guerrière. Voici un extrait de ce texte poignant publié aux éditions de Minuit. Parce que pour lui, la guerre, ça veut dire revivre la mort d'une femme qu'on a aimée si longtemps qu'on ne croyait pas imaginable qu'un jour des hommes à peine plus vieux que des gosses surgiraient des camions et qu'ils feraient descendre toutes les femmes de l'immeuble, une à une, fouillant à chaque étage, porte à porte, dans chaque pièce, chaque chambre, chaque placard, les menaçant et les frappant, puis qu'ils les réuniraient et les forceraient à se déshabiller dans l'arrière-cour où d'habitude résonnaient seulement les cris des enfants ou le vent claquant contre les draps. Oui, bien avant, c'était impensable aussi de se dire qu'un jour les soldats encercleraient les femmes aux peaux nues et glacées et qu'ils les abattraient les unes après les autres. une à une, pour qu'elle crie, pour qu'elle panique, pour laisser des hommes seuls avec des enfants, pour entendre longtemps le bruit des douilles résonnant sur les dalles, uniquement pour que les hommes et les enfants derrière leurs fenêtres comprennent qu'on ne doit pas résister, qu'on ne doit pas poser de bombes contre les soldats, ni penser qu'on peut vaincre l'occupant. Uniquement pour que les cris des femmes et les coups de feu montent si haut dans les immeubles qu'ils deviennent la terreur elle-même et soient si effrayants que chacun en gardera la peur plaquée à l'âme jusqu'à la fin de ses jours. Lorsqu'il remarque le couple avec le bébé, il court vers eux. Il se dit que eux, peut-être, comme si eux seuls pouvaient savoir. Mais ils ne l'ont pas vu. Ils n'ont rien vu. Je cherche quelqu'un. Une femme.
Dis-lui de partir.
Peut-être qu'elle est passée ici il n'y a pas longtemps. Je me disais que peut-être...
On l'a pas vu. On n'a vu personne. Passe ton chemin. Il n'y a que nous ici.
Pourquoi vous reculez?
Laisse-nous fout le camp.
Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous le cachez comme ça?
Laisse-nous, dégage. Dégage, on te dit. Dégage.
Restons dans cette géographie de l'errance sous la plume d'un autre auteur contemporain. Si le texte de Laurent Mauvignier clôt les festivités dans la cour d'honneur, le thème de l'errance est présent dès l'ouverture du festival, à travers la nouvelle création d'un jeune metteur en scène, Nathalie Garraud. Après un remarquable Othello l'an dernier que vous incarniez à merveille Cédric Michel, la Compagnie d'Usieux revient à Avignon avec un nouveau texte signé par le dramaturge Olivier Saccomano, Soudain la nuit. Soudain la nuit sera présenté au gymnase du lycée Mistral du 5 au 12 juillet. Le texte est publié aux éditions Les Solitaires Intempestifs. Découvrons cette écriture forte aux accents prophétiques qui s'ouvre par un dialogue entre un homme et une femme. Cédric Michel, vous ferez Chaïn et moi je ferai Nora.
Notre temps ne sera pas le dernier, me dis-tu. Il y aura de nouveaux fruits dont nous pouvons à peine imaginer la saveur. Il y aura de nouvelles paroles que la langue d'aujourd'hui ne peut pas concevoir. Nous vivons seconde après seconde, me dis-tu, jour après jour et non siècle après siècle. Le ciel est un aplat, sous nos pieds une dalle. Je voudrais n'avoir plus aucune idée de l'homme, mais je n'y arrive pas. Quel soulagement ce serait, imagine, si nous en avions perdu l'idée. Plus d'idée de l'homme, du monde, rien. La lumière tend à baisser, les jours raccourcissent, ils flottent dans l'air comme une odeur de mort, aigre douce, mais elle ne vient pas des corps, non. Elle vient des esprits.
Tu es fatigué, tu as fait un long voyage.
Je suis revenu aux villes éclairées, à toi, aux immeubles debout. Dans leur lit, les enfants sont couchés. Ils ne portent pas d'armes ni de plaies à leur cou.
Tu penses trop.
Je ne me raconte pas d'histoire.
Tu as rasé ta barbe?
Elle faisait parler.
Les gens aiment parler?
Non. Ils disent ce qu'ils sont, ce qu'ils aiment, ce qui leur fait peur. Des machines font le décompte et dans les heures qui suivent, on publie les promesses. Nous vous donnerons ce que vous aimez, nous vous ôterons ce qui vous fait peur. Les gens parlent seuls. L'expression. Quel étouffement.
Ta colère est comme celle des enfants. Tu t'y tiens entièrement, tu en recouvres le monde. Et il suffit d'un rien, d'une beauté de rien, une lumière sur un peuplier, l'appel d'un ami pour qu'elle disparaisse comme si elle n'avait jamais existé. Et tu jurerais que ce monde, parce qu'il y a eu cette lumière, parce qu'il y a eu cet ami, c'est le séjour des dieux.
Je ne suis plus un enfant.
Je le vois.
Tu es morte pour moi.
Plus tard, un autre personnage évoque l'avenir. Il s'appelle Ange.
Je ne hurlerai pas avec les loups. Je ne pleurerai pas avec les agneaux. Je marcherai à l'écart des foules. Je me perdrai et j'aimerai au hasard. Je dirai, tu es mon ami. Tard dans la nuit à un autre que moi. Je ferai des serments qui ne se rachètent pas, condamnés à vivre ou à se briser. Un soir de pleine lune, je poserai ma main sur des hanches inconnues. Mes yeux, je les plongerai dans les yeux de la bête et nous jugerons ensemble des plaisirs incertains de tous les animaux, humains et domestiques, maîtres et serviteurs. Et il neigera. Il neigera. Ainsi les hommes se rappelleront, à cette heure blanche, la beauté qu'autorise une lumière égale. Et beaucoup oublieront. Et beaucoup oublieront. Et ce sera une guerre, encore, et il faudra la faire. Et je serai touché sûrement au cœur. Alors je ramperai jusqu'à une forêt de lianes et de béton. Là, des inconnus me soigneront. Un enfant volera mes deux bottes et mes quatre secrets. Il rejouera ma guerre, car c'est l'enfance de l'art. Il mourra au combat, puis il se relèvera.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
What I've got, I don't want. All it does is hover and taunt. Reminding me what I used to be, what I may never be again. Turns out what I'm good at doing is making something out of the ruin of all this wasted space that can never be replaced. Learn it all again tomorrow. Learn it all again tomorrow. Nothing I have you can borrow or steal. Yes, I think we have a deal. If my wheels were square, but the earth was jagged, I'd roll along and be no less ragged than I seem to be today. I'm usually this way. Learn it all again tomorrow. Learn it all again tomorrow. Nothing I have you can't borrow or see. Yes, I think we have a deal. I wish every holiday only took an hour. That I'm not just like the people I resent. I wish someday I could truly be empowered to say exactly what it is I meant. All I have that's in abundance is my perpetual redundance. It's hard for me to say, I face it every day. Learn it all again tomorrow. Learn it all again tomorrow. Nothing I have you can't borrow or steal. Learn it all again tomorrow. Learn it all again tomorrow. Nothing I have you can't borrow or steal. Yes, I think we have a deal.
Revenons à l'enfance de l'art et évoquons l'un des premiers pouvoirs du langage, celui de nommer les êtres, et plus précisément les personnages. Telle est l'entreprise ludique d'un grand dramaturge qui tente d'énumérer les créatures humaines comme d'autres ont énuméré les espèces animales. Cette tentative d'épuisement poétique est l'œuvre de Valère Novarina et sera à découvrir au Cloître des Carmes du 5 au 12 juillet. Voici un extrait de ce texte que l'auteur nous a confié en avant-première. Merci Valère. La pièce est à présent publiée aux éditions POL. L'historienne est l'un de ces gens. Cédric, vous ferez l'un de ces gens. Et je ferai l'historienne. Il sème la vie dans une suite catastrophique. Entre le bonhomme latent, le docteur de vacuité, la femme du pantalarmier, la grammaire, la femme 108, Théodrie, l'enfant parturiant, capitaine errement et enterrement, l'enfant chronophage, le cycliste robique, le vieillard carnatif, François des choses, le mangeur de soi-même, l'homme à l'horloge, le mangeur plutôt ciel, le mangeur trop tard, le mangeur huisier, le mangeur spermier, le mangeur vobis, les enfants d'alphabet, trouillambique, le cœur des hommes désominés, la logique, les sept-titres moribudilières.
Nous sommes les sept-titres sanguides moribidulaires, bicévenol d'obédience nordo-muribienne. Comme les rutaines post-salas et leurs alliés myrmidons de la satanée branche caduque, nous adorons le dieu Buzib, qui est en tout et partout, et nous nous adorons nous-mêmes. Notre rêve intime est de rester les premiers en deuxième ligne et de pouvoir ainsi abattre nos précurseurs incognito. Nous approuvons tout ce qui s'est passé jusqu'ici sur ce plateau. Nous n'autorisons l'euthanasie que vraiment altruiste, et muni de trois piles de certificats conformes calibrés par l'Observatoire du Haut-Commissariat à la Revue.
Nous sommes la partie secto-sécessionniste du groupe précédent. Nous désirons former un seul peuple double avec nos frères structuropontistes et partager leurs restes. Nous combattons depuis 18 ans tous les habitants belges de Pontarlier et de toutes nos forces les plus vives, les transpotagres du Beneluxistan ainsi que les décimo-carmino-cadurciens du Sud-Bitume. En temps voulu, nous avons l'intention de conclure une alliance coupante avec les bons corses mitoyens car nous avons avec eux décidé d'adopter un dieu de la même farine.
Je pense pas du tout que le langage quotidien soit banal et parimé. Je pense que dès qu'il y a un peu une émotion forte, on parle en alexandrin, en décasyllabes, que les rythmes sont fondamentaux dans la pensée. Je pense que dans la vie, les mots sont comme des flèches, comme des projectiles. Donc j'ai une conception un peu balistique du langage, si vous voulez, de que ce sont des flèches qui partent du plateau et qui vont pas atteindre tout le monde en même temps, mais qui vont atteindre les spectateurs singulièrement. Et rien n'est plus beau lors d'une représentation lorsque on sent qu'un spectateur est touché par tel mot et pas celui d'à côté. Donc c'est des flèches individuelles et publiques et en aucun cas considérées comme un troupeau. Il n'y a en aucun cas une émotion obligatoire.
Et voici pour conclure les adieux d'une grande figure mythique, gardienne du pouvoir prophétique du langage. À la fin de la guerre de Troie, Cassandre, prisonnière des Grecs, attend sa dernière heure. Sur l'attelage qui l'emmène à Mycène, fief du roi Agamemnon, elle évoque son destin et l'étrange pouvoir qui lui fut donné, celui de prédire l'avenir sans être jamais entendu. Ce texte, écrit par la grande romancière allemande Christa Wolf, sera lu lors d'une soirée exceptionnelle le 22 juillet à l'Opéra d'Avignon par une magnifique actrice, Fanny Ardant. Voici un extrait de la traduction d'Alain Lance aux éditions Stock. Avec ce récit, je descends dans la mort. C'est ici que je finis, défaillante. Et rien de ce que j'aurais pu faire ou ne pas faire, pu vouloir ou penser, ne m'aurait conduite vers un autre destin. Pourquoi ai-je tant désiré le don de prophétie ? Parler avec ma voix, chose suprême. Je n'ai rien désiré d'autre et rien de plus. Je pourrais le prouver, mais à qui ? À cette foule étrangère qui entoure la voiture, insolente et intimidée à la fois, se penchant à toujours me justifier, il y aurait de quoi rire s'il avait motif de rire. La fin de Troie était prévisible, nous étions perdus. À présent, le soleil a dépassé le zénith. Tout ce que je comprendrai d'ici à ce soir m'accompagnera dans l'abîme. Je fais l'épreuve de la douleur. Comme le médecin pique un membre pour vérifier s'il est mort, je pique ma mémoire. Il faudrait la transmettre à quelqu'un, mais à qui ? Nul ici ne parle ma langue, excepté celles qui vont mourir avec moi. Je fais l'épreuve de la douleur et je songe aux adieux. Myrine, ma fidèle amie. Comme c'est étrange, je suis jeune encore, et je suis obligé de parler au passé de presque tous ceux que j'ai connus. Myrine pénétra mon cœur dès l'instant où je la vis, claire et intrépide. Ce qui m'avait toujours ravi plus que tout chez elle, c'était sa haine de mes prophéties. Mais qui donc te donne le droit de proférer de telles paroles ? Je ne lui répondis pas, je fermai les yeux. Plus tard, je la vis s'armer avec joie, elle, une femme, lorsque les hommes de Troie, en dépit de mon opposition, introduisirent le cheval des Grecs dans la cité. Je l'encourageai dans sa décision de monter la garde auprès du monstre, moi, sans armes à son côté. Avec joie, je la vis se ruer sur le premier grec, qui vers minuit se glissa hors du cheval en bois. Avec cette joie à contresens, avec joie, je la vis tomber et mourir d'un même coup. Parce que je riais, on m'épargna, comme on épargne la folie. Je ne veux plus parler. Mon âme est dévastée. Qui retrouvera la langue ? Et quand ? En attendant rien que des vociférations et des ordres lancés, l'impuissance des vainqueurs qui tournent autour de l'attelage se chuchotant mon nom. Vieillards, femmes, enfants, partout le même recul d'horreur, l'horreur de la victoire, de ces suites atroces, le meurtre d'Agamemnon que je vois déjà dans leurs yeux aveugles. C'est ainsi. Je fus longtemps incapable de comprendre que les autres ne pouvaient pas voir ce que moi je croyais. Je pensais qu'il se moquait de moi. Si nous étions des fourmis, tout le peuple aveugle se rue dans le fossé, se noie, forme le pont pour les quelques survivants qui sont dans le noyau du nouveau peuple. Pareil aux fourmis, nous nous précipitons dans chaque incendie, chaque fleuve de sang, uniquement pour ne pas être obligés de voir. Quoi donc ? Nous. Car l'être humain ne peut pas se voir lui-même. Il ne le supporte pas. C'est ainsi. Voilà que tout s'agite en moi. Je vais implorer cette terrible reine pour qu'elle me laisse en vie, Clytemnestre. Je t'en supplie, envoie-moi une jeune esclave dotée d'une mémoire très précise. Ordonne-lui de redire à sa fille tout ce qu'elle entendra de ma bouche et que sa fille en fasse de même avec sa fille, et ainsi de suite. De telle sorte qu'à côté du fleuve des épopées, ce minuscule ruisseau, à grand-peine, atteigne les hommes lointains, plus heureux peut-être, qui vivront un jour. Souvent, avec Myrine, nous parlions de ceux qui viendraient après nous. Comment ils seraient, s'ils se souviendraient de nous, s'ils amélioreraient ce que nous avions mal fait. Ainsi vivions-nous dans l'heure précédant l'obscurité. Alors que la guerre s'étendait lourde et languissante au-dessus de notre cité et que notre soleil allait bientôt disparaître.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec Philippe Palares à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laurel Maki et Irène Menahem. Un grand merci à vous, Cédric Michel. Vous serez à Avignon dans la nouvelle création de Nathalie Garraud et Olivier Sacomano, Soudain la nuit, du 5 au 12 juillet au gymnase du lycée Mistral. Et un grand merci à Olivier Pille. Dès la semaine prochaine, vous pourrez réécouter une sélection d'émissions de la saison 2014-2015 de « Ça peut pas faire de mal » en rediffusion chaque week-end de l'été, les samedis et dimanches, à midi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la matinale, tous les jours, à 7h55, pour un grand feuilleton consacré à Victor Hugo et préparé par Laura El Maki. Bel été sur France Inter.